Alors, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes évidemment très heureux tous les quatre que vous soyez venus, finalement relativement nombreux, dans ce lieu excentré, mais toutefois extrêmement intéressant, par son histoire, chocolaterie. Et nous sommes extrêmement heureux de pouvoir vous présenter, enfin, c'est surtout mes trois comparses qui vont vous présenter un certain nombre de travaux de recherche autour du commerce et des pratiques commerciales au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Alors, pourquoi, justement, est-ce que ça peut être intéressant d'étudier le commerce à l'époque médiévale et au début de l'époque contemporaine, sachant qu'on brasse ici une période fin XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle? Eh bien, parce que la période dont on vient de vous parler, c'est évidemment une période de grande transformation économique et sociale. Et ces grandes transformations, se retrouvent également dans la sphère commerciale. Par exemple, juste pour rentrer plus dans le vif du sujet, à partir du XVIIe siècle, au moins, on assiste en Europe à un essor qui est tout à fait massif de la consommation. Et ça prend en particulier la forme d'un élargissement mondial des aires d'approvisionnement, par exemple en produits coloniaux, liés notamment à la conquête impériale. D'ailleurs, cette augmentation de la consommation a poussé certains historiens, je pense notamment à un historien néerlandais qui a fait sa carrière aux États-Unis, qui s'appelle Jan de Vries, qui en est arrivé à considérer, de Vries, qu'un des moteurs de la croissance économique au XVIIIe siècle, eh bien, c'était justement le désir de consommer qui aurait poussé les Européens à travailler plus pour consommer plus. La thèse est discutée, mais en tout cas, cette centralité de l'essor de la consommation au XVIIIe siècle est bien marquée. Dès lors que l'on parle d'augmentation de la consommation, on parle de ceux qui mettent sur le marché les produits, et tout particulièrement, comme mise sur le marché, il y a le rôle des marchands, et tout particulièrement le rôle des marchands détaillants, ceux qui assurent la mise à disposition des biens auprès des consommateurs finaux. Ces détaillants, au XVIIIe, XIXe siècle, on note, parmi les historiens qui ont travaillé sur leurs pratiques, on note un certain nombre d'innovations dans leurs pratiques, d'innovations de marketing notamment, en vue de susciter le désir de consommer. On pense à une foule de travaux éminemment intéressants, par exemple ceux de John Stobart sur la Grande-Bretagne, ou alors, pour le cas français, ceux d'une historienne américaine, Claire Cowston, ou alors de Natasha Cochry sur la boutique à Paris au XVIIIe siècle. Ces marchands, donc, ils ont des relations avec leurs clients, bien sûr, en mettant à disposition des biens, et ils leur font crédit. On aura abondamment l'occasion de rediscuter du crédit ici. Mais ces détaillants, ce sont des gens qui ont un travail, et une partie de leur travail à ces détaillants, c'est justement de s'informer, notamment de s'informer sur les produits disponibles et de faire en sorte d'ajuster les produits disponibles aux évolutions des désirs des consommateurs. Une partie du travail, c'est d'ailleurs aussi de s'assurer de l'acheminement en temps voulu des produits. Le travail d'information vraiment est central dans les activités des marchands et y compris des détaillants, des petits marchands. Je vous renvoie par exemple à un excellent volume qui était paru il y a quelques années sous la direction de Philippe Minard ou de Dominique Margueras qui s'appelle « L'information économique », comme de juste. En tout cas, ces marchands, pour pouvoir mettre à disposition les biens, ils doivent s'appuyer sur des réseaux et des filières d'approvisionnement qui sont les plus stables possibles, pour se procurer les biens, bien sûr, pour se procurer les informations et pour bénéficier de crédits. Et ce qui est tout à fait marquant pour l'époque moderne, y compris pour l'époque contemporaine, c'est à quel point certains détaillants peuvent avoir des filières d'approvisionnement qui sont extrêmement larges, par-delà d'ailleurs, évidemment, les barrières étatiques ou les barrières culturelles. Sans vouloir vous faire crouler sous la bibliographie, mais on peut citer des travaux comme ceux, par exemple, de Francesca Trivelato, son grand œuvre traduit en français il y a quelques années sous le titre de « Corail contre diamant », extrêmement intéressant, où l'on voit des marchands juifs de Livourne, en Toscane, être impliqués véritablement dans des réseaux commerciaux d'envergure mondiale, y compris avec l'océan Indien. Bref, pour saisir tous ces éléments, pour saisir les mutations des pratiques des détaillants au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, nous, trois intervenantes, vont se livrer à ce que l'on pourrait appeler une histoire au ras du sol, en essayant au plus près possible du terrain, si on peut dire, les pratiques marchandes. Elles vont se livrer, chacune à leur manière, à une sorte de micro-analyse, de micro-histoire, comme l'on peut dire, des commerçants. En ayant conscience, bien sûr, pour reprendre les termes de promoteur de la micro-histoire, Eduardo Grandi, en ayant bien conscience du caractère exceptionnel des cas qu'elles étudient, mais en essayant, par-delà leur caractère exceptionnel, de comprendre leur normalité, c'est-à-dire leur représentativité. Les exemples qui sont étudiés correspondent à des marchands dont les aires d'activité sont à la fois locales, en effet ils vendent l'écrasante majorité de leurs biens à l'échelon local, mais aussi largement interrégional, voire franchement global, pour leur réseau d'approvisionnement, pour leur circuit de paiement notamment. Ainsi donc, mes trois comparses vont ici se livrer à une sorte de micro-histoire globale, pour reprendre le titre d'un numéro des Annales il y a quelques années, une sorte de micro-histoire globale des pratiques marchandes. Elles vont présenter leurs réflexions en quatre temps. Dans un premier temps, elles vont revenir sur la consommation, sur la dimension matérielle, en fait, qu'est-ce que les marchands vendent et à qui. Dans un deuxième temps, elles reviendront sur l'interaction marchande, c'est-à-dire qu'elles vont regarder comment les marchands, les détaillants font face à leurs clients et à leurs fournisseurs. Dans un troisième temps, elles reviendront sur les dimensions territoriales, donc sur l'insertion dans des flux commerciaux, régionaux, mondiaux. Et enfin, dans un quatrième temps, elles reviendront sur la question des paiements, sur la question des crédits que les détaillants peuvent accorder à leurs clients ou alors que les détaillants se font accorder par leurs fournisseurs. Bon, j'ai déjà beaucoup trop parlé en essayant de cadrer ce qu'elle voulait dire. Je me rends compte d'ailleurs que j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Julien Villain, je suis maître de conférence en histoire moderne à l'Université d'Évry-Val-d'Essonne et je travaille sur les économies au XVIIe et XVIIIe siècle en France et en Europe. Et tout particulièrement, je travaille sur le commerce et les dynamiques des marchés. Alors, je laisse nos trois intervenantes se présenter et présenter brièvement leurs travaux avant que nous commencions donc par le premier temps. Merci beaucoup.
Merci Julien pour cette présentation et cette introduction très riche et à la fois concise. Bonsoir à tous. Je suis Clémence Paillat, doctorante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et mes travaux de recherche portent sur les marchés des épiceries à Paris au XVIIe et XVIIIe siècle. Et je m'intéresse particulièrement aux logiques de spécialisation et de diversification qui ont lieu sur le marché, mais dans toutes ses facettes, c'est-à-dire à la fois la spécialisation en termes de produits, en termes de qualité de produits, en termes de clientèle, mais aussi en termes d'espace et de fournisseurs. L'une des particularités du marché des épiceries, c'est qu'il est organisé autour de la corporation des épiciers à Paris au XVIIe siècle, qui constituait en fait l'un des six grands corps de marchands à Paris et qui constituait l'élite commerciale de la ville. Un corps à deux têtes, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des épiciers et des apothicaires. Et pour revenir sur la définition plus précise de ce qu'était une épicerie à l'époque, il faut que vous ayez en tête que c'était un mot valise qui regroupait une très large variété de produits. Cela allait des épices tels que la cannelle, le poivre, le sucre, en passant par des produits tels que le fromage, le jambon, en passant par les bougies. Donc c'était vraiment un marché très diversifié en fonction des usages et des fonctions qu'ils avaient. Ils pouvaient être tout à la fois des produits bruts, transformés, voire manufacturés, des denrées périssables ou inaltérables, ou des marchandises relevant du superflu ou au contraire de la nécessité. Donc, comme l'a très bien rappelé Julien Villain, nous sommes à un moment particulier, au XVIIe et XVIIIe siècle, un moment de diversification des marchandises diffusées en Europe, en lien notamment avec les grandes découvertes et les explorations, mais aussi nous avons en parallèle, comme il l'a déjà présenté, une révolution de la consommation où les gammes de marchandises, les qualités et cet attrait pour la nouveauté augurent des mutations dans la demande des consommateurs. Et donc dans le cadre de cette étude du marché des épiceries et dans le cadre de cette table ronde, je me suis intéressée particulièrement à des sources de la pratique marchande, c'est-à-dire des journaux de comptabilité de marchands épiciers faillis, conservés aux archives départementales de Paris, ainsi qu'à certaines correspondances marchandes, afin de saisir les réseaux créés, les réseaux entretenus, mais aussi la diversité des produits qui sont vendus par les épiciers à cette époque. Merci.
Bonjour, moi je m'appelle Juliette Françoise et je suis doctorante aussi à Paris 1 et à l'Université de Genève. Et dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse au rôle joué par la monnaie dans l'expansion commerciale et impériale des Français en Asie au XVIIIe siècle. Je m'intéresse ainsi aux négociants qui prennent part à l'armement des navires, financent des entreprises aux Indes orientales, ouvrent des magasins et obtiennent des marchés dans les colonies. Et un de mes terrains d'enquête, c'est les Mascareignes, c'est-à-dire l'île de France, l'île Maurice actuelle, et l'île Bourbon, la Réunion, dont la Compagnie française des Indes orientales, fondée par Colbert en 1664, prend possession respectivement en 1649 pour l'île Bourbon et 1715 pour l'île de France. Dans le contexte qui suit la guerre de 7 ans, la Compagnie des Indes orientales voit son monopole suspendu avec les régions au-delà du Cap de Bonne-Espérance et le commerce est rendu libre et c'est le moment en particulier où au Mascareigne, du coup à l'île de France, à l'île Bourbon, va fleurir un commerce privé qui mobilise les marchands, notamment de la façade des ports atlantiques et du pourtour méditerranéen. Et je vais donc vous présenter un cas d'étude. Je vais parler d'un marchand, créancier, propriétaire terrien à l'île de France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Jacques-Pierre Ferry, qui, entre autres multiples activités, il approvisionne les Mascareignes, les deux îles, donc l'île de France et l'île Bourbon, en articles de la métropole destinés à la consommation des habitants. Cette étude, elle se fonde sur sa correspondance personnelle, sa correspondance marchande et ses comptes qui sont conservés aux Archives nationales à Paris parce que ces papiers ont été saisis en fait pendant le blocus continental. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas de figure, c'est qu'on va voir en fait qu'il fait ses achats auprès de fournisseurs en métropole et qu'il organise à l'échelle des deux îles la redistribution des biens. Il y a deux enjeux majeurs, je pense, dans cette étude de cas, dans le cadre de cette table ronde. Premièrement, le rôle de l'interconnaissance et des relations personnelles, notamment des relations familiales, qui permettent la structuration de chaînes de distribution et la circulation aussi bien des biens, mais aussi du capital et de l'information, entre la métropole et les îles, mais aussi aux Indes orientales. Et dans un deuxième temps, donc un deuxième enjeu, qui est l'imbrication en fait du commerce lointain et du petit commerce à l'échelle des îles. Comment en fait on a l'expansion de chaînes de distribution à l'échelle du monde avec le commerce lointain ou le commerce longue distance, mais que ces chaînes-là reposent aussi sur des commerces à plus petite échelle, des commerces de détail, et l'île de France et l'île Bourbon jouent un rôle assez stratégique dans le cas de l'Asie.
Bonsoir. Donc je conclue le tour de table de présentation. Je suis Glantine Cussac et je suis doctorante à l'Université de Strasbourg. Et je travaille en histoire contemporaine sur la profession des voyageurs de commerce en France. Et mon travail couvre la période qui va de la fin du 19e siècle au début de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, le cas des voyageurs de commerce, qui sont donc des intermédiaires qui assurent le lien entre producteurs et revendeurs, qui sont des intermédiaires commerciaux qui ont pour charge de démarcher la clientèle pour le compte d'une maison, c'est une entrée privilégiée qui permet de saisir des mutations de pratiques commerciales au sein de l'Europe industrialisée. Pour cette table ronde, en fait, ce que je voudrais vous présenter, c'est vraiment un cas d'étude spécifique d'un homme qui s'appelle Paul d'Outremer, qui accepte pour une période relativement courte, donc allant de 1886 à 1889, d'assurer la représentation pour le compte de la maison Corémy, Benaki et compagnie d'Alexandrie d'Égypte en coton dans le secteur du nord de la France. Il s'agit ici d'un dossier qui est conservé aux Archives nationales du monde du travail, qui est situé à Roubaix, et qui contient des papiers donc de ce Paul d'Outremer, et qui documente en fait ses relations avec cette maison égyptienne. Finalement, c'est assez intéressant que cette relation d'affaires soit si courte parce qu'elle permet de saisir un réseau, une relation commerciale qui est en train de se créer et de saisir en fait aussi les raisons de son échec. Concrètement, ce qu'on a dans ce dossier, c'est surtout la correspondance passive, donc c'est-à-dire le courrier que la maison d'Alexandrie envoie à Paul d'Outremer. Ce sont des mémos, des dépêches, des notes, des listes de clients. Et tout cela permet de saisir l'action des acteurs sur le terrain. Donc, comment est-ce qu'on démarche les clients? Comment est-ce qu'on fait connaître les produits par rapport à, par exemple, des produits concurrents? Comment est-ce que concrètement on assure la distribution? Et ce que ce dossier permet de mettre en évidence, c'est aussi l'extrême fragilité de ces relations commerciales qui sont créées. Pour resituer un peu dans le contexte, l'Égypte à cette époque, c'est une plateforme commerciale d'importance, surtout après les années 1860, qui voit le percement de l'isthme de Suez. C'est aussi une époque où l'Égypte commence à être mise sous tutelle grâce à l'instrument de la dette. Des sociétés britanniques contrôlent des capitaux et les filiales qui sont implantées en Égypte. Et c'est dans ce contexte-là qu'est encouragé le développement de la culture du coton sur un modèle indien dans le nord de l'Égypte. C'est dans ce contexte-là que la maison Corémy, Benaki et compagnie est fondée en 1858. Au départ, c'est une maison de commerce qui achète du coton à Alexandrie pour la revendre à Liverpool. Ce n'est pas forcément un hasard que les liens se créent avec le nord de la France, puisque dans ce secteur de l'île Roubaix-Tourcoing, c'est une des régions textiles principales de la France, avec une grande densité de filatures. Donc voilà, ce dossier nous permet de saisir la mise en place d'une relation commerciale, le rôle des relations interpersonnelles, mais aussi la fragilité de ces relations.
Bien, merci beaucoup à toutes les trois pour ces présentations de vos travaux très riches. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, en essayant d'aborder les quatre thèmes de notre cahier des charges. Commençons par ces histoires de consommation, ce que vous avez appelé la dimension matérielle de la vie quotidienne. Comme on l'avait dit en introduction et comme vous l'avez rappelé d'ailleurs dans vos présentations, à partir du XVIIe siècle, on assiste à une extension considérable de ce que l'ethnologue et anthropologue indien Arjuna Padurai a pu appeler le monde des biens. En effet, on dispose de plus en plus de biens à disposition pour satisfaire ce que l'on commence à appeler au XVIIIe siècle le confort. Cet essor du confort, cette extension du monde des biens, en fait, correspond à un essor de la consommation. Consommation, c'est-à-dire l'expression de préférences personnelles sous contrainte de revenus. Et en particulier, le commerce de détail contribue à forger ce monde des biens. En effet, les marchands sont des acteurs de la diffusion des marchandises en développant la diffusion de nouveaux produits, en ajustant leur offre, notamment pour devancer les goûts des consommateurs et pour créer, par exemple, des phénomènes de mode. Ainsi donc, on va essayer d'explorer dans cette première partie, dirons-nous, ce rôle créateur de l'offre du petit commerce, du commerce de détail, pardon, c'est pas la même chose, ce rôle créateur du commerce de détail pour voir dans quelle mesure l'offre crée la demande, pour citer l'économiste français Jean-Baptiste. Je vous remercie.
C'est à vous. Alors, on a choisi plus précisément en fait, de centrer notre propos autour de la qualité, notamment pour pouvoir dialoguer entre nos trois études. Et je commence notamment parce que ça permet de raccrocher notre table ronde au sujet des rendez-vous de l'histoire de cette année, c'est-à-dire la mer. Dans le monde des îles, le monde des îles au XVIIIe siècle est en particulier le commerce des îles, ce qui nous intéresse ici, les deux sont particulièrement conditionnés par le rapport à la mer, qui impose une distance spatiale et temporelle. Et il y a deux éléments essentiels qui sont d'un côté l'insularité et d'autre le fait que la seule modalité de circulation, c'est le transport maritime. Et cette configuration, elle a deux conséquences sur le commerce. D'abord, une rareté relative des biens. Et deuxièmement, des risques et des incertitudes qui sont particulièrement liés aux conditions de l'acheminement de ces biens et donc au transport maritime. Vous avez ici, sur le PowerPoint, des catégories de différents biens qui sont envoyés depuis la métropole par ferry, du coup des alcools, des textiles, des articles de savonnerie, de quincaillerie, de l'artisanat plus ou moins de luxe, de l'orfèvrerie avec des bijoux, des bracelets, des boucles d'oreilles par exemple, de l'horlogerie, de la lunetterie, de la verrerie, de la maroquinerie aussi, de la papeterie et enfin des produits alimentaires. Et l'acheminement de tous ces biens et notamment leur qualité est un enjeu prédominant dans la correspondance entre ferry et ses correspondants. C'est pas tellement les biens eux-mêmes qui sont décrits, mais ce qui retient beaucoup plus l'attention de ferry et de ses correspondants, c'est comment va être, dans quel état va être réceptionnée la marchandise et la qualité de ces marchandises va-t-elle être altérée pendant le voyage. L'enjeu, c'est bien de faire correspondre la marchandise entre le produit qui est envoyé et celui qui est reçu et de maintenir cette qualité. On a donc affaire à une qualité qui est instable. L'altération de cette qualité, comme je l'ai dit, elle est particulièrement liée aux conditions du transport maritime à longue distance et à trois éléments. Premièrement, le risque du naufrage, que les navires soient coulés, c'est-à-dire qu'on perde en fait les marchandises, ou bien qu'on puisse sauver les marchandises, mais qui seront donc dans un état altéré, ce qui met notamment en œuvre des questions d'assurance ou de partage des coûts. Un deuxième élément, c'est le fait que ces îles qui se situent dans l'océan Indien sont dans un espace géographique particulièrement sensible à des questions de tempêtes, de cyclones et à un climat tropical humide. Il y a donc une altération du conditionnement des biens, des malles, des barriques, des caisses qui sont endommagées, voire certains articles qui sont rouillés. Et enfin, la temporalité particulière de ce commerce entre la métropole et les îles, où il y a entre 5 à 6 mois de navigation, eh bien, cette temporalité-là, elle impose d'être en capacité de maintenir la qualité des produits dans le temps et de les conserver. Et c'est un problème notamment pour tous les articles alimentaires qui arrivent parfois avariés, voire pourris. L'enjeu de la qualité, dans le cadre donc, de ce commerce, de ce petit commerce des îles, c'est avant tout celui de la réception, en fait. Plutôt qu'un enjeu de création d'une offre et de jouer sur la qualité comme un critère.
Alors, je vais poursuivre cette étude sur la qualité, non pas en m'intéressant au transport des produits qui peut altérer la qualité du produit, mais sur, une fois arrivé dans la boutique, comment les épiciers intériorisent cette qualité, comment ils la décrivent dans leurs journaux de comptabilité. En effet, la fin du XVIIIe siècle, notamment les années 1680, correspondent en fait à une phase de développement des échanges commerciaux et de cette volonté et de ces besoins de définir la qualité des produits et de hiérarchiser les marchandises, comme en témoigne par exemple l'ordonnance du commerce promulguée en 1673 ou encore le parfait négociant de Jacques Savary en 1675. Donc je me suis interrogée sur la nature des critères de qualité, leur diffusion, leur récurrence dans les comptes, et ainsi donc les produits concernés, puisque ça gère en tout de produits alimentaires. Donc il était intéressant de s'intéresser à la dénomination de cette qualité, parce que cette qualité, elle est importante parce qu'elle permettait non seulement d'identifier les produits, de les reconnaître, à la fois pour le vendeur mais aussi pour l'acheteur, et elle est aussi un outil de reconnaissance de l'arrivée ou non de nouveaux produits sur le marché. Par exemple, cette lettre que j'ai recopiée ici, issue d'un registre de copies des associés épiciers Louis-Marie François et Pierre Loger, montre en fait comment l'incertitude règne sur le marché et sur la qualité et sur sa dénomination. En effet, dans cette lettre, il est indiqué qu'en fait, ils ne sont pas d'accord sur la dénomination d'un même savon. Certains l'appellent savon bleu pâle, d'autres l'appellent savon sale. Et donc, il est très bien noté ici qu'en fait, ils craignent de ne pas connaître spécifiquement l'arrivée ou non d'un nouveau produit sur le marché. Donc, on voit bien que la dénomination du produit est un facteur clé dans cette compréhension de la qualité. En outre, dans l'ensemble des journaux de comptabilité que j'ai étudiés, en particulier des épiciers, il existe des produits d'épicerie qui font davantage l'objet de mentions de qualité. Les produits qui font davantage mention de qualité, c'est le beurre, par exemple, le poivre, le café, le savon, le sucre ou encore la chandelle. Et dans l'ensemble des comptabilités que j'ai saisies, environ une quarantaine, environ 26% des produits de chaque fonds de boutique sont associés à au moins un critère de qualité. J'ai dénombré au total plus de 1000 qualités différentes, parfois avec des variantes assez similaires, mais tout de même. Et la qualité est parfois d'autant plus importante dans l'étude du marché que les épiciers utilisent ces critères pour définir et décrire leurs marchandises dans les journaux en les intériorisant. Il est intéressant de voir que parfois, dans les comptabilités, il n'est même pas fait mention du produit, mais seulement de la qualité de ce produit. Par exemple, au lieu de parler de poivre concassé, on aura juste la ligne concassée. Au lieu de parler d'huile d'amande douce, on n'aura plus que amande douce. Donc cette intériorisation de la qualité est importante chez l'épicier parce que certains sont en fait spécialisés dans ce type de denrées. Et cette intériorisation de la qualité dans les journaux se retrouve même dans l'usage d'abréviations. Plutôt de dire savon bleu, ben on mettra du BL, du savon blanc B, ou encore de l'huile d'amande douce, huile DD. Donc on voit bien que dans cette écriture comptable, il y a une appropriation de cette qualification de la qualité. Donc variété de critères de qualité pour décrire les produits, mais aussi j'ai essayé de catégoriser ces critères de qualité. De quoi s'agit-il concrètement ? On remarque qu'il y a une hiérarchie des produits en fonction d'une part des critères relevant du luxe ou du caractère ordinaire du produit. C'est assez évident. On a de l'huile super fine, de l'huile fine ou de l'huile commune ou de l'huile ordinaire. On a aussi une hiérarchie en fonction de la qualité intrinsèque du produit. Ces anciens épiciers pouvaient vendre des figues grasses, du noir de charbon, du noir de fumée ou encore du poivre noir, blanc ou léger. Une autre façon de catégoriser ces produits, c'est de parler bien sûr de l'origine géographique. C'est le cas notamment par exemple du savon de Marseille, du sucre d'Orléans, de l'eau de vie d'Andaye et j'en passe. Les méthodes de préparation sont aussi très courantes dans les comptabilités pour décrire les produits, notamment par exemple le safran en poudre, le café en grains, le café moulu. Enfin, l'accent est porté sur la question de la nouveauté, beurre nouveau, huile nouvelle, pour insister également sur les critères, on va dire, très subjectifs et très personnels des épiciers, puisque dans leur comptabilité, sans vraiment que l'on sache véritablement à quoi cela correspond, on peut lire « beau citron », »,« pierre ponce mauvaise », »,« eau de vie meilleure », »,« prune belle », »,« bougie la plus belle », sans savoir vraiment de quelle bougie il s'agissait. Parmi ces critères qui définissent la qualité des produits, les plus récurrents, ce sont bien sûr l'origine géographique du produit, mais aussi la qualité intrinsèque des produits. On décrit la marchandise en termes de couleur, en termes de goût, en termes de qualité stricto sensu. Donc on a vraiment un marché fondé, comme ce que les sociologues pourraient appeler, fondé sur la quête du bon. Et dans l'ensemble, quand on remet en perspective les stratégies commerciales de ces épiciers, on remarque que les épiciers qui font davantage mention de critères de qualité dans leur comptabilité sont des marchands épiciers hyper spécialisés dans une gamme de produits ou dans une famille de produits. Et donc, il s'avère que parfois, chez certains épiciers, on a des gammes de produits très très riches. Par exemple, dans un journal de comptabilité d'un épicier qui est vraiment spécialisé dans la vente de savon, Il y a pêle-mêle du savon blanc de Gênes, du savon blanc en tablette, du savon blanc de Marseille, du savon blanc et madré, du savon d'Alicante, du savon madré de Marseille. Donc on voit bien qu'il y a une démultiplication de ces critères de qualité qui parfois peuvent se cumuler, la couleur et l'origine géographique. Un autre exemple, ce serait un épicier qui, par exemple, est spécialisé dans la vente du beurre, qui vend du beurre d'Isigny, du beurre de cette année, de l'année dernière, du Contentin, du beurre fin, du beurre moyen, du beurre petit, du beurre salé, salé nouveau, salé rouge, salé très fin. Donc le panel de critères de qualité peut être très très riche, et surtout chez les marchands hyper spécialisés. Donc en définitive, cette qualité des produits constitue véritablement un processus d'identification fondé sur cette quête du bon, ou en tout cas sur la description la plus exhaustive possible du produit.
Cette catégorisation des produits, le fait qu'on associe un produit à un nom qui va marquer, spécifier sa qualité, à la fin du XIXe siècle, c'est un phénomène qui est largement répandu, donc qui a tendance à se généraliser, puisque l'idée, c'est que cette catégorisation du produit, elle est imposée par la maison, par le producteur, qui va attacher un nom, une marque, à un type de produit de sa fabrication pour justement individualiser l'objet et dans le but de le rendre davantage compétitif sur le marché. La qualité, ainsi, à la fin du XIXe siècle, elle est comprise dans le marché spécifique de l'industrie textile de l'Europe occidentale, elle est comprise comme un critère de positionnement par rapport à la concurrence. Là aussi, évidemment, on a une gamme de produits qui vont de fil de coton de la meilleure qualité à du coton plus standard, voire ordinaire. Mais l'idée, c'est bien que c'est la maison, le producteur lui-même, qui va imposer sa propre perception, sa propre catégorisation d'une gamme de produits. Donc là, en l'occurrence, la maison Corémy d'Alexandrie, elle propose du coton jumelle. C'est un type de coton très fin qui était par exemple utilisé pour la production de mouchoirs. Et ce qui frappe dans cette lettre dont je vous propose un extrait, c'est que, donc là en fait on est au tout début de la relation d'affaires entre Paul d'Autremer et la maison Corémy d'Alexandrie qui est représentée par ses agents généraux Alfred Escher et compagnie qui sont basés à Trieste. C'est que d'emblée on annonce la couleur en développant toute la liste de produits avec les noms qui leur sont associés, en orientant directement le représentant sur les types de produits qui sont susceptibles de plaire à la clientèle. Donc on distingue entre fil beurré, donc avec le canari, le bullfinch, le bittern, et le fil qui lui est blanc, donc pétrel, merlin et dove aussi, en indiquant voilà, lesquels doivent être placés en priorité. Donc la maison a une très, très grande conscience de la diversité des qualités qui lui sont proposées et elle donne à son représentant des échantillons qui sont associés à ses produits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà apparaître au XVIIIe siècle. C'est quelque chose qui est tout à fait courant et qui continue d'être utilisé. Dans ce contexte-là, la qualité, en fait, c'est un des critères de positionnement sur le marché par rapport à la concurrence, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le prix, il y a aussi la qualité de service qui est fournie par la maison, donc par exemple le délai d'approvisionnement. Dans ce contexte-là, le rôle du représentant, il est très important parce qu'il permet... Donc non seulement de placer les produits, mais également en les plaçant auprès des clients, d'avoir un retour sur l'utilisation de ces produits et d'avoir un retour sur les attentes de la part des clients. Donc finalement, le représentant a pour fonction non seulement de placer les produits, mais aussi d'informer sa maison sur l'état du marché, sur la consommation de tel ou tel client particulier et ses attentes, de faire remonter les plaintes, ce qui permet en fait un effet retour. Cela permet à la maison d'adapter son offre de produits sur les marchés. Le représentant à la fois va donner à la clientèle les offres qui sont actualisées toutes les semaines par sa maison, donc des offres de produits, mais aussi à quel prix est-ce que la maison accepte de les vendre pour cette semaine-là. Il va aussi informer la clientèle des délais de livraison. Et en retour, il va informer la maison des pratiques de livraison qui sont pratiquées sur ce marché-là. Le temps nous presse un peu. Je voulais simplement introduire aussi, juste rapidement, la notion de réputation. La question qui se pose, c'est, malgré le fait qu'on vende des produits dont on est persuadé de la qualité sur un marché donné, comment est-ce que, finalement, on parvient réellement à se créer, à se faire une place, à créer une réputation sur un marché donné? Il y a effectivement la qualité du service, des produits, mais on va aussi employer d'autres formes d'argumentation, par exemple ces chiffres de vente et le fait qu'on est mieux placé que ses concurrents sur le marché. Ça joue aussi pour convaincre non seulement les clients, mais aussi le représentant, qu'il représente une bonne maison et que donc il doit mettre du cœur à l'ouvrage.
Bien, merci beaucoup. Donc, cette intervention extrêmement riche. On va passer à notre deuxième grand thème, à savoir les interactions marchandes. En effet, un marchand, c'est quelqu'un qui a, le mot a été prononcé, d'une relation clientèle, c'est-à-dire qu'il a à faire face à des clients, mais il a également à faire face à des fournisseurs. Et l'approvisionnement des boutiques est soumis, on l'a vu à travers les communications, notamment la première, est soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui portent notamment sur l'acheminement des produits ou alors sur l'information sur les produits. Ainsi, les marchands ont tout intérêt et veillent, au XVIIIe, XIXe siècle, même après d'ailleurs, à s'insérer dans des chaînes d'approvisionnement qui soient sûres et stables et qui leur donnent une bonne information sur les produits et qui permettent plus généralement de générer de la confiance dans les relations marchandes. D'où l'importance de la personnalisation des relations d'affaires, notamment à base familiale. C'est ce qu'on va essayer de voir, notamment dans cette deuxième partie. C'est à vous, mesdames.
Je prends le relais un petit peu à contre-pied justement de cette question de la personnalisation. En fait, il y a un grand récit qui a été posé par un économiste, Karl Polanyi, dans les années 40, sur cette idée que, en fait, dans la première moitié du 19e siècle, il y aurait une forme de dépersonnalisation des relations marchandes. C'est l'idée qu'à l'époque moderne, les relations marchandes seraient fondées sur une relation de confiance qui s'ancrerait dans le caractère interpersonnel de la relation marchande, alors qu'à partir du 19e siècle, on rentrerait dans une époque où finalement la relation marchande serait d'ordre strictement professionnel et se résumerait à un ensemble d'échanges économiques, mais qui ne serait pas marqué outre mesure par une personnalisation de ces relations. Et ce grand récit, il a été mis en question, notamment en analysant le rôle de certains intermédiaires, dont les représentants de commerce, pour arguer qu'on pouvait quand même voir une persistance de cet aspect personnel de la relation marchande. Donc, ce que je vais essayer de montrer dans mon cas d'étude, c'est que c'est finalement assez ambigu et que ça soutient plutôt bien la thèse d'une dépersonnalisation des relations marchandes, en fin de compte. Alors, certes, la mise en relation entre marchands se fait par recommandation interpersonnelle. Paul d'Outremer, en fait, il est recommandé à la maison Corémy d'Alexandrie par un client potentiel, donc le membre d'une famille de filateurs du nord de la France, qui le propose en fait à la maison égyptienne qui cherche justement un représentant. Mais en fait, cet homme qui met la maison et le représentant en contact, en fait, lui, il cherche un intérêt financier derrière. En fait, il demande à Paul d'Outremer, une fois que le marché est conclu avec la maison, 5% de la commission que Paul d'Outremer va toucher sur les transactions. Donc voilà, ce n'est pas forcément simplement une relation interpersonnelle de pure confiance, une relation purement amicale. Cette mise en contact des commerçants, elle continue en fait une fois que Paul d'Outremer est déjà représentant pour la maison d'Alexandrie dans le nord de la France. La maison lui demande à peine un mois après que leur relation soit établie s'il lui-même aurait un contact à Rouen pour établir une agence à Rouen qui est aussi un centre textile de la France. Donc en fait, on fonctionne comme ça, par contact de proche en proche, et la relation d'interconnaissance, enfin, les chaînes d'interconnaissance s'allongent de plus en plus. Donc en soi, on pourrait penser qu'on est encore dans des relations qui fonctionnent par des recommandations interpersonnelles. Mais finalement, il y a bien une mise à distance qui est présente dans cette relation. La relation commerciale entre Paul d'Outremer et sa maison, elle n'est pas seulement bilatérale, mais en fait, elle fait face à plusieurs couches de médiation. D'abord, cette maison Korémi, Benaki et compagnie, c'est une maison de négoce qui est très internationalisée. C'est une maison d'import-export grecque qui a un bureau à Liverpool et à Alexandrie. Et en fait, la correspondance entre Paul d'Outremer et sa maison transite par des agents généraux, donc Alfred Escher et compagnie, qui sont basés à Trieste. Et finalement, entre la maison d'Égypte et le client final, donc les filatures dans le nord de la France, il y a des représentants, des avocats, des banques. Donc il y a une répartition fonctionnelle d'importance, et la personnalisation, finalement, pourrait bien n'être qu'apparente. Certes, on partage une culture commerciale commune. On utilise le français dans la correspondance, il y a l'importance de la réputation, l'envoi des prix, des offres actualisées toutes les semaines. Mais finalement, ce qu'on voit, c'est que ça reste une relation très professionnelle. Les rapports sont assez instables. Ce qu'on voit dans les lettres, c'est que si on échange des nouvelles qui peuvent paraître personnelles, familiales, c'est un échange de nouvelles asymétriques. C'est-à-dire qu'on va féliciter Paul d'Outremer pour la naissance de sa fille, le plaindre pour la mort de son père, mais finalement, Paul d'Outremer ne sait rien de la situation familiale de la famille Escher. Et finalement, si on note en fait ces nouvelles familiales, c'est pour aussitôt rappeler le représentant à l'orgue de façon peut-être un peu violente, en lui rappelant la nécessité de se focaliser sur ses propres affaires. Donc la question de la personnalisation ou de la dépersonnalisation des relations marchandes, ici, dans le cas présent, elle est assez mitigée.
Alors, moi, je prends le contre-pied de cette intervention, puisque le monde des îles, au contraire, est basé sur l'interconnaissance et une très forte personnalisation des relations. Ce que montre le cas Ferry, c'est que le petit commerce des îles fonctionne suivant deux modalités. On revend au détail dans les îles, soit en passant par des intermédiaires, des détaillants qui ont des boutiques, soit directement à la clientèle. Et ce réseau, que ce soit les intermédiaires ou même la clientèle directe, reflète en fait la structuration sociale du monde des îles qui est basée sur la famille. En fait, ça découle en fait de l'histoire des îles, qui est une histoire de migration familiale avec le déploiement de réseaux familiaux qui sous-tendent et soutiennent les tentatives personnelles de faire fortune. C'est ce qu'ont montré des auteurs comme Auguste Toussaint et Louis d'Herminy. Du coup, dans le cas de Ferry, comment est-ce que lui, il mobilise ses liens familiaux pour constituer, faire fructifier ou maintenir sa fortune dans les îles? Eh bien, il utilise deux modalités. Est-ce que vous pouvez passer au slide suivant? D'un côté, la fratrie et de l'autre, les alliances. Ferry, l'aîné, donc, a cinq frères. Et donc, sur les six frères Ferry, il y en a quatre qui sont passés aux Indes. C'est un premier aspect du réseau. Le deuxième, c'est celui des alliances. Des alliances par le mariage. Son épouse, Geneviève Fitzgerald Dorman, est issue d'une famille déjà installée à l'île Bourbon et une famille marchande. Outre le mariage, il y a son beau-frère, François de Nogent-Sauguy, et ses cousins, Jean Valli, Jacques Villebois, et aussi de la famille par alliance, comme les Blancs et Roland, ou encore les Ferry de Nîmes. Comment est-ce qu'il est, il est mobilisé ce réseau? Il est mobilisé d'abord pour obtenir des biens, du capital et des informations en fonction de la position de chaque acteur dans ce réseau, en fonction de la hiérarchie. Cette hiérarchie, elle est basée sur qui détient le capital, qui peut faire des avances et du crédit, qui a des contacts. Par exemple, Ferry est en contact avec Isaac Panchaud, qui est un grand banquier suisse dont a parlé notamment Lutti dans La Banque protestante, qui est à la base de la Caisse d'Escompte. Ce réseau est aussi fondé sur la position géographique de chaque acteur et des allers-retours qui sont faits entre la métropole et les îles et les passages en Inde. Enfin, il y a un dernier élément qui peut expliquer l'évolution des positions des uns ou des autres dans le réseau en fonction globalement de la conjoncture des affaires, du succès ou non des armements. Ce réseau, il sert donc à avoir des biens, du capital et de l'information, et aussi à se rendre service. Par exemple, en laissant les marchandises qu'il reste à vendre aux îles quand on rentre en métropole, ou encore quand Ferry a besoin de fonds de manière assez urgente, on lui fait des lettres de change à blanc. Au fondement de ce réseau, il y a donc la confiance, et c'est ce que je vais vous montrer, et le crédit intrafamilial, et je vais vous donner deux exemples assez rapidement. Pour la question de la confiance, il y a un outil juridique qui est particulièrement intéressant et utilisé, qui est celui de la procuration. Une procuration, c'est quoi? C'est l'acte par lequel on donne pouvoir à quelqu'un d'agir, traiter, recevoir, etc. en son nom, de faire une affaire dans une affaire particulière quand elle est spéciale ou quand elle est générale dans toutes les affaires qui concernent celui qui donne la procuration comme s'il était présent et s'il agissait en personne. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien le « comme s'il était présent ». De fait, comme je vous l'ai dit, les acteurs bougent entre la métropole, les îles et l'Inde. Il y a donc la nécessité en fait, de déléguer le fait de pouvoir faire des affaires. Et c'est bien cet outil commercial qui est à la base vraiment de comment fonctionne le commerce dans les îles et qui repose sur la confiance. Un deuxième exemple, si on peut passer à la slide suivante, c'est celui du crédit intrafamilial. Vous avez ici l'exemple en fait, de Villebois, qui est le cousin de Valli, lui-même le cousin de Ferry, qui cherche à s'installer au Mascareigne et qui a besoin, donc, pour débuter son affaire, d'un commencement de fortune. Et Valli va donc faire en sorte que son cousin Villebois ait ce commencement de fortune. Et c'est le frère de Ferry l'aîné, Ferry de la Combe, qui va avancer 10 000 livres par un accord qui est passé verbalement. Et Valli va mobiliser le procureur de Ferry de la Combe au Mascareigne, qui s'appelle Le Faguet, pour obtenir ses fonds. Ce qui est assez intéressant, c'est que le montant de 10 000 livres, il est décidé par Valli, parce qu'à la base, Ferry de la Combe prêtait une somme illimitée, et c'est Valli qui dit qu'il a besoin d'au moins 10 000 livres. Si vous pouvez passer à la slide suivante. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ces 10 000 livres, elles sont données sous la forme d'un papier-monnaie, c'est-à-dire la monnaie de la colonie qui circule dans les Mascareignes, dans les deux îles, l'île Bourbon et l'île de France. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on prête donc de l'argent, des sommes importantes, avec des accords qui sont passés verbalement, de manière du coup très personnelle, et qu'en fonction de la position de l'acteur au sein de ce réseau familial, il y en a certains qui sont en capacité de dire combien est-ce qu'on va prêter parce qu'ils apportent leur propre crédit. Valli apporte son crédit à son cousin Villebois, et il dit même qu'il se porte garant de ses fonds. On a donc ici, à l'inverse, un réseau qui est très, très personnel et qui repose sur la famille.
Alors, construire un réseau ou le maintenir, c'est une chose, mais il faut surtout montrer qu'il faut s'adapter et que ce réseau, il peut être aussi fragile. À partir de mon étude sur les épiciers, j'ai pu remarquer que ce réseau, il fallait savoir le renouveler et l'entretenir, notamment lorsqu'il y a des changements de propriétaires de fonds de boutique d'épicerie. Il s'agit parfois de nouveaux épiciers qui arrivent sur le marché. Leur objectif, c'est d'entretenir les liaisons marchandes préexistantes et qui étaient créées par leurs prédécesseurs. Dans cette étude, je me suis rendu compte en fait que dans les réseaux des marchands entre marchands détaillants et marchands grossistes, un petit groupe d'une dizaine de très gros marchands dominait ce réseau en termes de fournisseurs, d'approvisionnement d'épicerie. En effet, il y a des marchands structurants qui en fait étaient l'élite de la corporation, les gardes de la corporation d'épiciers, qui en fait étaient les marchands structurants du marché et qui en gros étaient les moteurs de ces réseaux-là. Et donc, c'est pour cela que ces réseaux sont très, très fortement fondés sur des réseaux et des liaisons interpersonnelles, puisque ces nouveaux épiciers qui arrivent sur le marché n'hésitent pas à demander l'aval ou en tout cas de demander la référence de ces gros marchands pour obtenir ou maintenir certaines relations. Donc, il y a un exemple d'un épicier du nom de Bachelet qui, en fait, dans un registre de copies de lettres, affiche très nettement son souhait de se mettre en rapport avec certains commissionnaires, notamment à Amiens ou à Marseille. Et il insiste souvent sur le fait qu'il vient tout juste d'acheter un fonds d'épicerie et qu'il a besoin d'obtenir de nouveaux réseaux pour l'acheminement de produits très spécifiques comme des oranges du Portugal ou des citrons du sud de la France. Donc ici, je vous ai mis l'exemple où il dit « Venant de prendre le fonds d'épicerie de M. Boucher, je m'adresse à vous avec toute confiance pour me faire état des divers articles de chez vous et j'espérerais que vous me feriez jouir du juste prix comme à vos amis. » Donc il n'hésite pas, dans ses nombreuses lettres et pendant plusieurs années, à mobiliser des contacts particulièrement influents, renommés et reconnus sur la place parisienne, sans forcément qu'il ait véritablement contacté spécifiquement ces personnes. Et de fait, il fait appel à ces relations-là pour s'asseoir sur le marché et, qu'on va dire, consolider son réseau. Donc, ces réseaux sont à la fois fragiles, il faut mettre en relation des fournisseurs à partir d'acteurs clés du marché, et cela souligne surtout le caractère non automatique, en fait. C'est pas parce qu'on rachète un fonds de boutique qu'on rachète son réseau et ses fournisseurs. Le réseau peut être non seulement fragile, mais il peut aussi être mis en péril. C'est le cas notamment d'une société d'épiciers, celle entre Louis-Marie François et Pierre Logier à la fin des années 1760, qui, au début du registre, annonce très fièrement dans leur correspondance qu'ils se sont associés pour faire fructifier leur commerce, notamment de couleurs et de savon. Donc, en 1761, ils signalent cette fierté de s'être associés. Tout semble très bien se passer. Mais on voit qu'au fur et à mesure de la correspondance, l'un des deux partenaires, Louis-Marie François, signale l'incertitude, l'inconstance et le caractère imprévisible de son associé. Il dit à plusieurs reprises que les marchandises qu'il devait apporter ne sont point arrivées, qu'il ne fait que le blâmer à l'étranger, ou encore qu'il semble être un homme très très dangereux et qu'il serait fâcheux pour leur commerce. Donc on voit bien que la relation de confiance est mise à mal entre les deux associés et il réitère ce constat de façon assez récurrente pendant plusieurs années en évoquant les mauvais tours, les mauvaises affaires ou le défaut de probité de son associé. Donc cet exemple montre qu'en fait, une mauvaise relation d'associé peut... mettre à mal le commerce en lui-même, parce qu'en fait, cette détérioration de la confiance entre les deux associés a entraîné une détérioration de la confiance avec leurs fournisseurs principaux et, in fine, la faillite. Donc cet exemple-là montre bien qu'un réseau, il faut savoir s'adapter et montrer qu'il peut se détériorer de façon très progressive et donc mettre à mal le commerce dans lequel il s'inscrit.
Bien, merci beaucoup à toutes les trois. Alors, l'heure tourne et je suis un bien mauvais maître de cérémonie, donc on va essayer d'abréger quand même pour les deux présentations qui suivent. Je vais donc être assez bref dans ma présentation. On a vu l'importance des réseaux sociaux de l'échange. Il est important d'avoir des partenaires fiables et des réseaux solides dans la durée, mais assez largement, parce qu'il y a des distances spatiales et temporelles qui sont extrêmement longues et qu'il faut surmonter. En effet, on a à faire face à des chaînes d'approvisionnement qui sont très étendues, qui relient des lieux qui peuvent être très distants dans l'espace, avec tout un ensemble de contraintes logistiques, notamment, ou informationnelles, qui pèsent sur la circulation des biens ou alors sur les flux de paiement. Ainsi, à partir du XVIe siècle, on a eu, pour citer Pierre Chaunu, désenclavement du monde, c'est-à-dire mise en relation des différents espaces de la planète. Mais ce désenclavement du monde a un coût et il convient justement trouver des moyens, des dispositifs pour surmonter ces distances, que ce soit géographiques ou temporelles, en matière d'information ou d'acheminement des produits. Donc, ces défis, voyons comment nos marchands ont essayé de les surmonter. Je vous laisse la parole.
Alors, pour comprendre vraiment l'intégration de ces territoires très locaux à des réseaux mondialisés, je me suis attachée plus particulièrement à décrire le cas des exemples de marchands grossistes en lien avec leurs détaillants pour montrer qu'en fait, ils effectuaient des achats réguliers et massifs en dehors de Paris. Très brièvement, on peut dire qu'il y a trois types de marchands épiciers. À la base, on a des épiciers très modestes, voire très modestes, qui en fait revendent des articles au détail achetés en demi-gros à d'autres épiciers. Au milieu de la hiérarchie, on a des maîtres d'épiciers qui se ravitaillent auprès de collègues plus puissants. Et à une échelle plus haute, en haut de la hiérarchie des marchands, il y a des épiciers qui font des achats réguliers et massifs en dehors de Paris. Donc c'est cette catégorie-là à laquelle je me suis intéressée. Et donc l'exemple de la société de Louis-Marie François et de Pierre Loger montre comment des liens se tissent à l'échelle nationale comme internationale pour se fournir en marchandises d'épicerie d'origine parfois très très locale. Et dans leur correspondance, j'ai mis au jour des dynamiques de spécialisation des espaces d'approvisionnement en fonction des produits qu'ils voulaient acquérir. Ils s'approvisionnent dans les espaces suivants, l'arc méditerranéen, Nice, Toulon, Marseille, Lunel, Lyon, la vallée de la Loire, Tours, Saint-Amand, Nantes, Le Havre, Rouen, Lisbonne ou encore Amsterdam. Donc ça vous montre la diversité de ces espaces d'approvisionnement. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces espaces est associé à un type de produit particulier. Par exemple, l'arc méditerranéen, très logiquement, fournit surtout de l'huile, des savons, des anchois, des fruits, des câpres ou encore des eaux-de-vie et toutes les épiceries de Montpellier en général. La vallée de la Loire fournit davantage de l'ocre, dans ce cas précis, où à Lyon est une place centrale pour l'approvisionnement en fromage, par exemple. Autre aspect important de cette correspondance, c'est la volonté des deux associés d'ouvrir de nouveaux marchés ou de s'ouvrir à des nouveaux marchés. Et l'exemple que je vous ai mis ici, c'est leur lettre dans laquelle ils s'adressent pour avoir accès à un correspondant nouveau français à Lisbonne pour ouvrir un nouveau marché, celui pour la vente d'oranges du Portugal. Cette lettre est intéressante parce qu'elle rend compte d'une part de la dimension mondialisée des zones d'approvisionnement, mais aussi d'autre part la dimension parisienne reliée dans laquelle ces marchands de gros s'insèrent dans le cas de ce marché des épiceries parisiens. Et cette lettre est d'autant plus intéressante qu'on montre une intrication et une imbrication des différentes échelles d'approvisionnement, devoir gérer à des marchés de très longue distance dans l'objectif de créer de nouveaux marchés. Ça rejoint bien évidemment les principaux résultats de Reynald Abad qui avait proposé déjà cet aspect en proposant et en affirmant qu'en fait qu'il existait un emboîtement des différentes échelles d'approvisionnement entre les échelles mondialisées, régionales ou encore très locales, dans le cas précis des épiceries.
Cet emboîtement des échelles, donc cette nécessité de penser ensemble une échelle d'approvisionnement globale et une échelle d'approvisionnement locale sur les marchés, elle se retrouve très bien dans le cas de Paul d'Outremer. Paul d'Outremer, en fait, il est l'homme qui met en connexion l'espace de production de coton égyptien et les filatures du nord de la France. Donc c'est des ballots de coton qui transitent par le port de Dunkerque. Mais en fait, on pourrait penser que c'est tout à fait logique que ces deux espaces soient connectés, puisque ce sont des espaces phares dans la production cotonnière et dans l'industrie textile. Mais en réalité, ça n'est pas une évidence. La distance qu'il y a entre le producteur et les filatures et la distance que la maison a avec ses clients nécessite des instances de contrôle, nécessite de se doter de possibilités de contrôler une marge d'incertitude qu'on peut avoir sur la livraison des produits. D'où l'importance en fait de s'assurer le relais sur place de représentants locaux qui assurent un ancrage local. Ces représentants, ils ont, donc, comme on l'a mis en évidence, une connaissance fine du terrain. Ils connaissent les conditions qui sont accordées au niveau du crédit, la réputation des clients, la temporalité aussi des paiements qui sont accordés, les phénomènes de mode. Ici, dans le cas présent, Paul d'Outremer, à échelle locale, ce n'est pas n'importe qui. Je vous ai mis son arbre généalogique. Par son mariage avec sa femme, donc il se marie à la fin des années 1870, il est apparenté à la famille Motte, qui possède plusieurs filatures dans le secteur de Lille-Roubaix-Tourcoing, et en particulier son beau-frère, Aimé, est dans les années 1880 président de la chambre de commerce de Lille. Son père, le père de Paul d'Outremer, qui s'appelle Abel, exerce des mandats aux tribunaux des prud'hommes. Donc c'est des familles qui exercent des postes de responsabilité à échelle locale et qui ont une position bien assise dans le commerce lillois. Donc finalement, le rôle de ces représentants, c'est bien d'ancrer localement cette connexion marchande globale pour assurer sa pérennité dans le temps. Outre cette inscription dans des réseaux de sociabilité locaux, il y a aussi un enjeu vraiment très concret qui est d'ordre logistique, c'est-à-dire qu'il revient aux représentants de gérer, par exemple, le transport des marchandises du port de Dunkerque, où les ballots de coton arrivent par bateau de fret, jusqu'à Roubaix, s'assurant justement que ces ballots de coton soient bien transférés par voie ferrée pour approvisionner les clients à Lille, Roubaix et Tourcoing. Enfin, un dernier moyen pour assurer cette connexion régulière entre le nord de la France et l'Égypte, c'est bien évidemment la correspondance. Cela suit plusieurs voies, ça peut être la voie purement postale ou alors l'utilisation du télégraphe. Et constamment, dans la correspondance, les agents de la maison Corémy demandent instamment à Paul d'Outremer d'utiliser le télégraphe pour ne pas perdre de temps. On voit que cette connexion des marchés a également un facteur temporel qui connaît un facteur d'accélération à la fin du XIXe siècle.
Alors, le désenclavement du monde à l'époque moderne, c'est certes l'accroissement du commerce lointain des Européens, mais c'est peut-être plus précisément, en fait, l'imbrication de différentes formes de commerce, c'est-à-dire de différents types de biens et de différentes chaînes de distribution. Et ce qui est assez intéressant dans le cas des îles de l'océan Indien, c'est de jouer sur les échelles. Alors, je ne vais pas revenir sur les circulations entre les îles à l'échelle locale, et je vais directement me concentrer sur l'imbrication des îles à d'autres échelles, en fait. On peut se demander pourquoi les négociants français des ports de la façade atlantique, du Languedoc et de la Méditerranée investissent dans les îles. En quoi le commerce des articles de la métropole aux îles leur est-il profitable ? Eh bien, c'est parce que les mascarènes sont intégrées à d'autres espaces, à d'autres marchés et grâce, en fait, à d'autres réseaux de distribution, ceux qui sont liés à d'autres formes du commerce, en fait. Il y a à la fois le commerce euro-asiatique, des produits exotiques de l'Inde et de la Chine, les textiles, les épices, les porcelaines. On voit d'ailleurs dans le cas de Ferry qui fait deux allées ou deux voyages de plusieurs années d'ailleurs aux Indes. Du coup, ces produits sont revendus soit dans les îles, mais surtout en fait réexportés à partir des îles vers la métropole. Un deuxième type de commerce, c'est le commerce colonial, des produits coloniaux qui sont liés à l'économie de plantation. Les îles sont aussi spécialisées en fait dans la production de café, notamment à l'époque, ou encore de bois d'ébène. Il y a aussi le commerce des esclaves à l'échelle de l'océan Indien occidental, avec notamment Madagascar, le Mozambique et la colonie hollandaise du Cap de Bonne-Espérance. Et surtout, en fait, les îles sont une place financière stratégique entre l'Europe et l'Inde pour le transfert des fonds vers la métropole. D'un côté, pour la contre-valeur des marchandises, et de l'autre, pour le rapatriement des fortunes grâce à des instruments de paiement à distance privés, comme les lettres de change, mais aussi, on pourrait dire presque, des instruments de paiement publics que sont les rescriptions des lettres de change tirées sur les trésoriers de la marine à Paris. L'enjeu, en fait, c'est bien la liquidation des paiements en métropole, parce que c'est là que s'accumulent et que s'investissent les fortunes sur le long terme, avec l'achat d'offices, de propriétés, mais aussi l'entretien de familles, la pension des familles, l'éducation des enfants. Et c'est ce qu'on retrouve dans le cas de Ferry, puisque Ferry a un office. Il est gouverneur pour le roi de Mani, en Île-de-France. Il a donc un revenu fixe grâce à cet office, et il entretient notamment ses deux filles à Paris.
Bien, merci beaucoup. Alors, on a bien fait d'accélérer un petit peu parce qu'avec un petit peu de chance, on pourra laisser une dizaine de minutes à la salle pour poser un certain nombre de questions sur toutes ces interventions extrêmement riches. Juliette, justement, a terminé en nous parlant de moyens de paiement et d'opérations de crédit. En réalité, et là, ça nous fait rentrer dans un gros morceau, on va dire, des opérations marchandes. En effet, pour vendre, nos marchands, grossistes ou détaillants d'ailleurs, doivent pouvoir fidéliser leur clientèle, ce qui suppose notamment de garantir aux clients des facilités de paiement, donc d'allonger du crédit. La question étant bien sûr de savoir à qui est-ce que l'on accorde du crédit et pourquoi en particulier. Par ailleurs, et on a aussi commencé à l'évoquer, mais dans le cas du commerce à longue distance, la question des unités monétaires, les questions monétaires au sens large, posent de vrais problèmes. En effet, les marchands, pour payer leurs dettes à longue distance, doivent acquérir des instruments de paiement qui peuvent être potentiellement onéreux, notamment les lettres de change. On va en redire un mot. Les marchands, d'ailleurs, doivent aussi faire face à ce que l'on appelle la pluralité monétaire, c'est-à-dire l'existence de différentes unités monétaires, par exemple entre aires monétaires différentes ou bien, à l'époque moderne, à l'intérieur même d'une aire monétaire. On va en redire deux mots aussi. Dans tous les cas, cela suppose des opérations de change qui sont éventuellement onéreuses, qui peuvent peser sur les bénéfices. Merci et c'est à vous.
Alors, cette question du financement des opérations commerciales, je me suis surtout intéressée donc, dans les comptabilités pour en fait me rendre compte qu'elle était pratiquement invisible dans les comptabilités ou peu visible dans l'écriture comptable. On peut le voir par la lecture des débits et des crédits pour savoir l'échéance donnée entre la marchandise livrée et le moment du paiement. Donc, cette question des financements, elle peut passer par un jeu d'écriture comptable, en fait, qui rend compte surtout des éventuels délais de paiement, mais pas forcément des moyens de paiement. L'étude des journaux de comptabilité, on se rend compte, en fait, que la comptabilité, déjà en partie double, est très peu répandue chez les épiciers, elle est davantage présente chez les marchands grossistes, mais c'est quand même quelque chose de très rare, en tout cas dans les sources qu'on a conservées aujourd'hui. Donc les modalités de paiement telles que la liquidité, les lettres de change ou les marchandises sont très peu évoquées. Quelques lettres de change sont mentionnées, mais c'est quand même quelque chose de très rare. En tout cas, dans la sélection de journaux que j'ai choisi, peut-être qu'il y a certains journaux qui sont très riches là-dessus, mais en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai observé. Mais l'étude plus précise des annotations marginales dans les marges, comme vous pouvez voir ici, notamment l'image de droite, on voit R, etc., montre en fait des indications sur les modalités de paiement, dans le sens, ça a été réglé ou non. Donc on voit parfois écrit en toutes lettres, réglé, non réglé, en retard ou un R, mais pas plus. De la même façon, les biffures dans les journaux, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez voir, les gribouillis, les croix, les traits en oblique, ou, etc., sont des indications comme quoi l'opération a été réglée. Bien évidemment, on arrive à lire dans l'écriture comptable une sorte d'évolution dans cette écriture au cours du XVIIIe siècle, une sorte de systématisation, d'utilisation de la biffure, d'utilisation des chiffres, etc. Mais encore une fois, ces journaux sont quand même d'une très très grande diversité, même s'il y a une norme qui est donnée, en soi, on n'a pas d'uniformité dans la tenue de la comptabilité encore au XVIIIe siècle. Un des faits marquants, et je m'arrêterai là, de ces comptabilités, c'est que les épiciers, comme on l'a dit, comme vous l'aviez évoqué, Julien, semblent avoir un rôle important dans le prêt d'argent. On voit souvent mentionné dans les comptabilités argent prêté, argent prêté, argent prêté. Donc cela suppose sans doute que ces processus d'argent suggèrent que les épiciers détenaient beaucoup de numéraires, en fait beaucoup de liquidités, donc il était très facile pour eux de prêter de l'argent. Mais à ce qui est sûr, c'est que l'objet même de la comptabilité n'est pas de rencontre de comment l'opération a été réglée, mais plutôt de ce qui a été réglé. Et donc cette notion-là de moyens de financement est très peu présente, et donc peut-être un indicateur d'une absence significative de problème vis-à-vis de la circulation du numéraire. Parfois, sans doute serait-il intéressant d'analyser des livres de caisse pour voir un petit peu comment ça se passe, mais c'est quelque chose qui est très peu présent dans les comptabilités.
Et on a une configuration totalement opposée dans les îles. Une des spécificités des îles, c'est bien la configuration monétaire avec deux contraintes structurelles, la distance et l'insularité, qui posent des problèmes d'accès à la liquidité. L'État, sous sa forme coloniale, intervient dans la seconde moitié du XVIIIe siècle pour tenter de mettre à disposition des moyens de paiement pour les colons, mais aussi pour les marchés. On pourrait presque parler de politique monétaire avec de la petite monnaie et du papier monnaie. La conséquence, c'est qu'il y a une diversité de moyens de paiement qui circulent dans les îles, alors qu'on a un discours sur la rareté du numéraire. Et pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire dans la correspondance marchande, ce qu'on trouve, c'est une omniprésence en fait, des difficultés et à payer et à se faire payer. Il y a presque plus d'infos en fait, plus d'informations pardon, sur les difficultés de paiement et les modalités de paiement que sur le commerce lui-même, ce qui pourrait donc révéler en fait, avec un effet miroir d'une certaine manière, le fait qu'il n'y a pas en fait tellement de liquidités et de numéraires disponibles. On a donc, comme je l'ai dit, différentes modalités de paiement. Et je vais en relever trois, en fait. Je vais d'abord vous faire remarquer qu'une des caractéristiques qui est exacerbée, en fait, dans le contexte des îles, c'est le paiement à terme, c'est-à-dire le paiement différé, reporter les échéances et ne pas payer au comptant. Le deuxième élément, donc, c'est bien cette diversité des formes et des moyens de paiement avec des jeux d'écriture pour solder les comptes, mais aussi des formes de troc avec certaines marchandises comme le café, le tabac ou encore les esclaves, des instruments de paiement qui vont être plutôt de la monnaie marchandise comme les piastres, monnaie d'Espagne, de la petite monnaie, de la monnaie billon qui est émise par l'État royal ou des petites coupures, le papier monnaie colonial. Enfin, un troisième élément, c'est qu'on a parfois des très petits paiements et d'autres fois des gros paiements, et qu'en fait, cette question de la quantité et même de l'échéance du paiement, elle est plutôt liée à des enjeux de temporalité et de géographie. Je vais vous donner quelques exemples, si vous voulez bien passer. Vous avez là, sur l'image de gauche pour vous, le règlement de transaction entre Ferry et Barbé. Et vous voyez qu'il y a à la fois des piastres effectifs qui sont utilisés pour régler certaines transactions et qu'en même temps, des fois, vous avez des petites pièces. Et même si vous regardez ce qui a été reçu de Bardet, vous avez certaines opérations qui sont données en monnaie de France, c'est-à-dire en unité de compte de France, qui n'est pas l'unité de compte des îles, puisqu'il y a une unité de compte propre aux îles. Vous avez donc vraiment une diversité de ce qu'est la monnaie, monnaie de compte, instrument de paiement, et même une diversité des instruments de paiement en fonction des transactions. Sur la diapositive de droite, pour vous, vous avez un autre cas qui est assez intéressant. C'est un bordereau pour le paiement de bois d'ébène. Donc. Et en fait, ce paiement se fait dans diverses coupures de papier monnaie. Vous avez des billets du coup de 100, 200, voire des toutes petites coupures de 1 ou 2 livres qui règlent l'achat d'une marchandise qui coûte cher, qui est le bois d'ébène. Et si vous pouvez passer, la dernière diapositive, c'est un instrument de paiement dont je vous ai parlé. C'est une rescription, c'est une lettre de change tirée sur les trésoriers de la marine à Paris qui sert à faire passer des grosses fortunes ou des grosses sommes en métropole. Et dans ce cas-là, vous voyez que c'est Ferry qui transfère en métropole de l'argent pour pension alimentaire pour ses 3 enfants, son fils et ses 2 filles. En conclusion, donc, on pourrait dire que peut-être une des caractéristiques essentielles du commerce dans les îles, et même du petit commerce dans les îles, c'est l'importance du paiement, parce que, à l'inverse de ce qu'a présenté Clémence, il n'y a pas tellement de liquidités disponibles, ou du moins pas dans la forme qu'on voudrait. Donc, on est tout le temps dans un contexte d'adaptation des manières de faire.
À la fin du 19e siècle, on est dans un contexte économique qui est tout à fait différent puisque domine un système de financement indirect avec l'émergence de nouveaux acteurs que sont les banques. Et ce sont elles, en fait, qui vont gérer les opérations de change. En fait, dès que les relations d'affaires se nouent entre la maison et son représentant, la question de la mise en place du système de règlement se pose dès le départ. C'est aux représentants de faire les tours des agences, des banques de la place pour discuter avec elles des conditions de paiement qu'elles peuvent accorder, et notamment donc de la commission qu'elles prélèvent sur les transactions. Et ces banques, en fait, donnent aussi une indication des sommes qu'elles acceptent de prendre à forfait par client potentiel. Donc la première chose que va faire Paul d'Outremer, c'est en fait démarcher le Crédit Lyonnais et le Crédit du Nord en leur donnant une liste de clients et en leur demandant à quel taux ils peuvent prendre les banques peuvent prendre ces transactions quelle est la somme maximale qu'elles peuvent accepter de prendre à forfait par client. Donc ces banques, finalement, au-delà de la fonction de crédit qu'elles ont, elles ont aussi une fonction d'information. Elles se révèlent être de bons indicateurs sur la solvabilité ou la fiabilité du client potentiel. Ce sont des affaires qui sont potentiellement lucratives pour les banques qui essayent de se positionner justement pour faire le lien entre la maison d'Égypte qui vend et les clients dans le nord de la France sur le marché local. Elles proposent aussi les services de leurs propres représentants pour intégrer les commissions qu'elles touchent intégrer les commissions du représentant dans les commissions qu'elles touchent pour concentrer les frais. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, je regarde la montre et je vois que nous n'avons que 7 minutes de retard sur ce qui avait été initialement prévu. Donc, merci en tout cas à toutes les trois d'avoir tenu le temps. Alors, ce qui nous laisse le temps pour ce qui est sans doute le plus intéressant, à savoir les questions de la salle que vous ne manquerez pas, j'imagine, mesdames, messieurs, d'avoir pour ces trois interventions, ces trois groupes d'interventions extrêmement riches, denses et profondément intéressants. La parole est à vous. Alors, vous n'allez pas prendre exemple sur nous, c'est-à-dire qu'on va juste vous demander pour que le plus grand nombre possible de personnes parlent, de poser peut-être une question relativement brève, quitte à ce que l'on puisse rediscuter un petit peu après. Si on va prendre, si ça vous dérange pas non plus, excusez-moi monsieur, on va prendre, si ça vous dérange pas, les questions à la suite, comme ça peut-être que les intervenantes pourront répondre de manière groupée à des questions si les unes et les autres se répondent. Excusez-moi monsieur, je vous en prie.
Maritime et justement les difficultés de se passer. assez intemporelles et qu'elles imposent. On observe certains produits, ben, je pense notamment au thé du côté des Anglais, où justement ce transport était parfois bénéfique. C'est ce transport qui a pris une plantation de la feuille et qui en a fait un produit un peu plus apprécié, si je dis, en Angleterre. Est-ce qu'il y a d'autres produits auxquels vous avez été confrontés qui auraient fait dans un cadre aussi, par exemple, sur votre recherche?
Merci beaucoup, monsieur, pour cette question grosse et intéressante et multifactorielle. Est-ce qu'il y aurait, messieurs, dames, d'autres questions ou d'autres remarques? Oui, monsieur.
Donc, ma question est principalement à madame Paila et madame François. Est-ce que ces petits commerces au XVIIe, XVIIIe siècle arrivent dans des territoires vierges d'interaction commerciale à échelle interpersonnelle, on va dire, alors pas du commerce de gros?
Merci beaucoup. Question pointue, technique, mais qu'elle ne manquerait pas de répondre non plus avec intérêt. Messieurs, dames, n'hésitez pas. Alors, on peut faire trois. Bon, je pense qu'on peut faire trois heures avec les deux questions, hein, sans trop de difficultés. Allez, vous avez encore droit à deux. Madame, vous en faites. C'est parfaitement au cœur même du sujet et au cœur même du problème. Oui, s'il vous plaît.
Moi, ma question, en fait, on avait parlé des problèmes que suscitaient pour les échanges les différences de monnaie entre les régions, et je me demandais s'il y avait eu des politiques mises en place, par exemple, pour que la monnaie coloniale et la monnaie de la métropole, en fait, soient les mêmes pour favoriser les échanges ou pas.
Donc là, c'est officiel. Je pense qu'on en a pour deux jours. Merci beaucoup pour cette question extrêmement pointue et pourtant fondamentale pour l'histoire économique. Allez, encore une. Monsieur.
Pareil, de prolonger un petit peu la discussion. J'aimerais savoir dans quelle mesure vos recherches vous ont confronté au rôle de l'État dans la médiation, les intermédiations marchandes sur vos différents terrains, et comment est-ce que ce rôle justement transforme les pratiques marchandes, en fait, le rapport à l'État et la façon dont il intervient dans les affaires des différents marchands.
Merci beaucoup, monsieur. Donc ça, c'est une invitation à faire une deuxième thèse, en fait, hein, très officiellement. Je pense même qu'on pourrait élargir pour leur créer encore plus de problèmes en disant que ce n'est pas tant une question d'État qu'une question d'autorité politique au pluriel, puisqu'on a différents acteurs à différentes échelles qui peuvent intervenir pour imposer des régulations économiques. Et là, on leur pose encore plus de problèmes, vous en avez bien conscience. Et donc, madame, décidément, c'est bien fait de venir. Madame, s'il vous plaît.
Pardon, j'ai une question pour le côté coton. En fait, c'est, là, vous avez parlé d'un seul exemple de représentant. Vous en disiez plus que ce que j'ai compris au début dans votre présentation. Et est-ce que, de manière générale, ces importations en fait, de coton, elles passent de manière plus ou moins systématique par des agents représentants, ou est-ce qu'il y a des fois où les citoyens voient eux-mêmes collaborateurs en France
pour vous comprendre. Vous avez bénéficié d'un public attentif, avisé et sagace, donc débrouillez-vous. Comme vous pouvez.
Par rapport à mon sujet de recherche. Alors, concernant la question sur les transports de marchandises, est-ce qu'ils ont pu favoriser la diffusion de nouveaux produits ou non ? Alors, pour certains produits d'épicerie, c'est indéniable, vous parlez du thé, qui est un produit d'épicerie, mais je pourrais vous donner d'autres exemples. Par exemple, il y a un épicier qui se spécialise dans tout ce qui est les confiseries et les petits gâteaux, et qui fait connaître son produit en emballant son petit biscuit dans un petit papier coloré et imprimé. Et c'est en diffusant ce produit-là, en le conditionnant de cette façon-là, qu'en fait, il se fait connaître et qu'il en fait la publicité de son produit. En fait. Et ça a permis la diffusion de cette nouveauté qui, en fait, ensuite va devenir vraiment un objet de toutes les attentions. Mais il y aurait d'autres exemples sur le conditionnement aussi du produit. Si vous décidez de le conditionner en café moulu, en café en grains, etc., ça aussi, ça participe à la circulation ou non du produit, c'est évident. Par rapport à la question sur le petit commerce, est-ce qu'il y a des territoires vierges de relations interpersonnelles ? C'est évident qu'à Paris, non. En tout cas, pour les épiciers, ils sont ancrés dans l'espace parisien depuis très longtemps. Si vous connaissez un peu Paris, tout ce qui est le quartier autour des Halles, du Châtelet, ce sont des quartiers où il y avait une très forte concentration de marchands épiciers. Pour vous donner un peu des chiffres, il y avait environ 600 épiciers en 1650, 1200 à la fin du 18e. Donc, en termes d'effectifs, c'est quand même une très très grosse corporation. Et on remarque même dans le déplacement ou l'ancrage des boutiques, on passe d'une boutique à une autre, de père en fils ou de gendre en beau-frère. En fait, c'est un réseau qui circule en fait en termes de relations personnelles, interpersonnelles, de façon très ancrée. Je veux dire, il y a des familles d'épiciers de génération en génération qui se marient avec d'autres familles d'épiciers. Donc, ils monopolisent véritablement le marché. Par rapport à la question sur les volumes de marchandises, alors oui, j'ai en partie étudié ça pour connaître en fait tout simplement qu'est-ce que vendaient les épiciers en majorité, parce qu'une épicerie, comme vous l'aurez compris, ça va de la confiserie au jambon, au fromage, en passant par la bougie et les épices. Et en fait, ce que j'ai remarqué, en tout cas en volume, dans mon échantillon, c'est que les épiciers ne vendaient pas majoritairement des épices. Ils vendaient surtout de l'huile, du sucre et de l'eau de vie. Donc c'est intéressant en fait de voir que ce ne sont pas les produits auxquels on s'attend initialement. Pourquoi ? Parce que l'eau de vie était aussi vendue par les limonadiers, l'huile était aussi vendue par les marchands huiliers, et le sucre, bon, spécifiquement aux épiciers. Et donc ce qui est intéressant, c'est que les produits les plus vendus, c'était les produits qui étaient en partage avec d'autres corporations, et pas tant le cœur du métier. Par contre, si on regarde, non pas en termes de volume, mais en termes de valeur marchande, il est indéniable que les épices avaient une très très forte valeur marchande dans leur comptabilité. Donc même s'ils en vendaient un tout petit peu de cannelle, la valeur marchande était telle que ça avait quand même un poids particulier dans leur spécialisation marchande. Et au niveau des modes, il est indéniable qu'il y a des modes de consommation. Le café est plutôt consommé, pas très consommé à Paris la première moitié du XVIIIe siècle. L'est un peu moins ensuite. Le thé prend le dessus, par exemple. Il y a plein d'exemples comme ça, mais là justement je suis en train d'étudier les recompositions de produits. Est-ce qu'on voit qu'en fait des produits apparaissent, d'autres remplacent d'autres produits? C'est ce que je suis en train d'étudier en ce moment, et la recherche n'est pas encore vraiment aboutie. Enfin, en ce qui concerne le rôle de l'État dans les médiations, alors c'est indéniable, dans le cas d'une corporation il y a de nombreux conflits, comme je l'ai dit, entre les corporations, puisqu'il y a des produits qui sont en partage avec d'autres métiers. Donc il y a des concurrences, des conflits. Les épiciers, en fait, vont essayer de s'arroger le plus de produits possible au détriment des autres petits métiers. Par exemple, ils vont obtenir progressivement le jambon, le lard, les légumes secs, les lentilles, les couleurs, en passant par les eaux de vie. Donc au fil du XVIIIe siècle, il y a une appropriation de plus en plus grande de la corporation au détriment des petits métiers. Ils font même mourir certains petits métiers. Les marchands grainetiers, les marchands limonadiers ont été supprimés à certains moments, en partie à cause de la corporation des épiciers qui veut s'arroger en fait leur propre commerce. Donc la monarchie joue un rôle dans l'attribution des prérogatives de vente, parce qu'il y avait des monopoles en fait. Si vous n'étiez pas épicier, vous n'aviez pas le droit de vendre ce produit-là.
Si je peux juste me permettre, il y a un mot qu'il faut prononcer, c'est privilège en fait.
Oui. Et enfin, il y avait de nombreux conflits entre les métiers. Et en fait, quand on compare les produits qui étaient le plus vendus par les épiciers et les conflits avec les autres métiers, et ben ça se recoupe. C'est-à-dire que les épiciers ont été énormément en conflit avec les limonadiers, ce qui est tout à fait logique puisqu'ils vendaient beaucoup d'eau de vie Ils ont été pas mal en conflit avec les peintres, parce qu'en fait, ils voulaient vendre des couleurs pour faire les tableaux. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une concordance entre cette diversification du marché et les conflits avec les autres métiers.
Alors, sur la première question, sur est-ce que le transport maritime favorise la distribution de produits, ce qui est assez intéressant dans le cas des masques à Rennes et dont j'ai moins parlé, c'est tout ce qui est lié à l'économie de plantation, à la fois un système agricole spécifique et une organisation du travail. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le projet colonial pour les îles ou le projet impérial, quand elle passe sous administration royale, de certains administrateurs comme Pierre Poivre, qui est assez connu sur la circulation des plantes, la circulation des plantes à une échelle impériale, c'est de développer les îles pour en faire un lieu de développement de biens recherchés sur les marchés en Europe à forte valeur ajoutée que sont le café, le clou de girofle, les épices plus largement, avec cette idée qu'il y a un climat et des sols favorables. Et dans cette optique-là, oui, le transport maritime permet l'accès ou la distribution de ces biens en métropole. La question, c'est est-ce que ça a marché ou non, est-ce que c'était réaliste ou non. Ça dépend, en fait, la Réunion, notamment, va surtout devenir connue pour le sucre, mais alors c'est plus tard, c'est au 19e siècle. Sur la question de est-ce qu'il y avait des localités vierges de relations interpersonnelles, ce qui est encore assez intéressant dans le cas des Mascarennes, c'est que ces deux îles, avant l'installation des Européens, ce sont des îles vierges, il n'y a pas de peuplement indigène. Donc, d'une certaine manière, oui, il a fallu développer une société locale avec l'arrivée de colons européens et surtout l'arrivée forcée d'esclaves. Mais c'est antérieur à ce que moi j'étudie dans le cas de Ferry. Du coup, c'est ce que j'ai montré quand Ferry il arrive, le fait qu'il se marie par exemple avec Geneviève Dorman Fitzpatrick, c'est une famille qui est déjà établie à l'île Bourbon et qui a déjà des réseaux et des connexions personnelles. Sur la question des monnaies, alors est-ce que c'est les mêmes monnaies ou pas qu'en métropole? Non, parce qu'en fait il n'y a pas les mêmes besoins monétaires, du coup il n'y a pas besoin de la même forme ni de la même valeur surtout des espèces monétaires, et en plus le but, pas forcément explicite, mais le but, c'est quand même de segmenter les aires de circulation de la monnaie parce que les usages sont différents et parce que les ambitions sont aussi différentes. Les îles sont fortement intégrées au commerce international. Il y a ce qu'on appelle la monnaie marchandise de l'époque moderne qui circule, c'est la piastre, la monnaie d'Espagne, et ce serait économiquement incohérent et surtout aussi infaisable pour l'État royal. Il n'est pas du tout en capacité, en fait, d'imposer ni même de diffuser les monnaies qui ont cours dans le royaume de France aux Mascarennes. Et surtout, je reviens encore sur le fait que ce n'est pas du tout les mêmes besoins monétaires. Sur le rôle de l'État, oui, trois exemples, du coup. Il y a une institution assez intéressante à l'échelle des îles, qui est le magasin du roi, qui est en fait, qui permet en fait à l'administration d'acheter les marchandises dont on a besoin pour le service du roi et pour la marine, les opérations militaires, qui sont croissantes à cette période, notamment dans le contexte de la guerre d'indépendance américaine, qui a des répercussions dans l'océan Indien. Et ils achètent certaines marchandises pour le compte du roi. Et donc là, oui, il y a clairement un rôle de l'État dans la distribution des marchandises à l'échelle locale. Un deuxième élément que j'ai mentionné, en fait, c'est le fait que des moyens de paiement publics soient utilisés par des marchands pour rapatrier leur fortune. Ce dont, en fait, l'État, en tant qu'institution, non, mais les acteurs au sein de l'État, c'est-à-dire notamment les trésoriers de la marine, ils sont tout à fait au courant. Il y a des intermédiaires, notamment à Lorient, qui favorisent le fait que certaines lettres de change vont être payées avant d'autres, par exemple. Donc là, c'est un rôle plutôt de qui sont les acteurs au sein de l'État et qui sont les trésoriers. Et un troisième élément... c'est tout. C'était les deux éléments.
Je prends le relais, du coup, peut-être en commençant sur la question des volumes des marchandises qui sont échangées. Alors, il y a dans ces correspondances les données précises des commandes qui ont été passées. sachant que pour ce cas particulier-là, ça se compte en dizaines de ballots, donc c'est des toutes petites commandes, parce qu'on est vraiment sur l'émergence de ce marché-là, et donc la maison fait constamment pression pour que les commandes passées soient plus importantes et acquièrent, et qu'en fait elles puissent se compter en tonnes de coton, ce qui ne sera jamais le cas, puisque de toute façon les relations sont interrompues au bout de 3 ans. Pour les phénomènes de mode, j'avoue que je ne l'ai pas repéré dans ce cas-là précis. Je peux peut-être davantage vous répondre sur le marché des colorants textiles, où donc aussi dans le nord de la France, où là, il y a vraiment la question de la mode et des coloris qui sont favorisés dans la confection, se fait vraiment à l'échelle temporelle de la demi-année. Enfin, tous les 6 mois, en fait, on note en fait que voilà, là c'est le rose pâle qui est plutôt favorisé. Alors c'est pas un renversement général de la tendance, mais il y a quand même des indications et des changements, voilà, à peu près tous les 6 mois. Pour la question des importations de coton. Alors, la source qui est vraiment une correspondance spécifique entre le représentant et sa maison, c'est en fait des types de sources qui sont assez rares, parce qu'en général, elles ont été jetées par les descendants ou parce que la maison n'a pas jugé utile en fait, de conserver ces lettres. Donc finalement, on en conserve assez peu. Donc c'est le seul cas de représentant en coton en fait, que j'ai réellement. Par contre, j'ai quelques pistes de réponse pour votre question. Dans le cadre de cette correspondance-là, la maison ne cesse de se réclamer du fait qu'elle est déjà bien introduite, donc notamment, surtout en Angleterre, mais aussi en Alsace et aussi à Troyes. Donc deux gros centres textiles français également. Et sur la place de Mulhouse, elle cite un fabricant chez qui l'agent vient en visite. Donc a priori, en fait, ce fabricant-là, c'est à la fois un client et à la fois un représentant. Donc d'une manière générale, l'idée dans l'utilisation des représentants, c'est que les représentants, ils servent pour s'introduire d'abord sur la place du marché, mais dès qu'on est bien introduit, dès qu'on est connu par les clients, dès qu'on est inséré dans les réseaux locaux, l'idée, c'est de contourner l'intermédiaire et de passer directement commande auprès des clients. C'est une pratique qu'on retrouve très généralement, pas seulement dans l'industrie textile, mais dans tous les types de marchés, et dont évidemment les voyageurs et représentants de commerce se plaignent parce que c'est eux qui ont démarché la clientèle et que finalement ils n'ont pas de retour sur l'investissement. Ici, en fait, ce qui m'invite à dire peut-être que ça n'aurait pas forcément été le cas, que Paul d'Outremer n'aurait pas forcément été contourné s'il n'avait pas renoncé de lui-même à cette représentation, c'est qu'en fait il avait vraiment un rôle à jouer sur le plan logistique. Mais ce qui se passe dans le cas par exemple du marché des colorants textiles, c'est qu'une fois qu'on est déjà bien ancré dans la place, en fait on va transformer le statut du représentant en celui d'une agence plus formelle, donc qui a des locaux, qui en fait est payé non plus seulement à la commission, mais qui est rétribué avec un salaire fixe, et donc ce qui permet en fait d'internaliser le représentant comme agent au sein même de la maison. Donc c'est plus tout à fait le même statut qu'on a. Et ensuite, sur le rôle de l'État dans les intermédiations marchandes, alors là, c'est un peu le sujet, un des gros enjeux auxquels sont confrontés les voyageurs et représentants de commerce, en particulier dans la première moitié du XXe siècle, parce que c'est un milieu, le petit commerce, qu'on suppose souvent acquis au libéralisme économique. Et dans une part, c'est vrai qu'il y a un attachement au fait qu'on ne veut pas que l'État intervienne dans ces transactions, mais alors c'est pas vrai de tous les acteurs du petit commerce. Et en particulier, les petits commerçants détaillants et les voyageurs et représentants de commerce, dès le tout début du XXe siècle, commencent à demander à l'État une forme de régulation, de nouvelles formes de distribution commerciale qui se mettent en place. Donc, par exemple, avec les maisons à succursales multiples, mais aussi dans l'entre-deux-guerres, les magasins à prise unique ou les bazars. Donc, il y a une volonté de ces petits commerçants qui se sentent menacés par ces nouvelles formes dites modernes de distribution, d'en appeler à l'État pour demander en fait la régulation de ces nouvelles formes qui leur font concurrence. Donc, c'est une des formes d'intervention de l'État. Il y en a d'autres aussi. On accepte, par exemple, de se faire mettre en fiche parce que ça donne... on se fait contrôler par l'administration, par la police administrative, mais en même temps, ça ouvre un certain nombre de libertés, de privilèges, même si c'est pas évidemment la même acception du terme que pendant la période moderne.
Pour citer, après on vous libère, messieurs, dames, en vous remerciant de votre attention, pour citer un manufacturier de Bourges des années 1780 qui écrivait au Conseil du Roi, pour demander, disons, des privilèges, justement. C'est une formule qui est célèbre et qui est citée par un historien qui s'appelle Jean-Pierre Hirsch, que je vous invite à lire. C'est « Laissez-nous faire et protégez-nous beaucoup ». Merci de votre attention.